Alors, je vais commencer par deux citations. Je ne vais pas les lire, je vous laisse les lire. Alors, cette première, c'est un peu une farce. Enfin, ça ressemble un peu à une farce. J'ai une amie allemande qui est directrice de collection chez un éditeur qui édite des maths. Elle est directrice de la collection de la série mathématique. Cette citation la traumatise quelque peu. Ce qui est dit sur les mathématiciens, c'est pas complètement faux. Non. Alors pourquoi c'est comme les Français? Alors ça franchement, j'en sais rien.
On le prend comme un compliment.
C'est pas vraiment un compliment, apparemment. Non. C'est pas vraiment un compliment. Bon. Alors, ça c'est plus sérieux. Ça c'est plus sérieux. Comment?
Je me demande si on ne peut pas l'écarter.
Je ne sais pas si on refait un petit peu.
Non, pas
beaucoup. Oui.
Non, elle est au maxi, là.
Seulement, oui, je veux dire, ce qui est un petit peu. Oui. Alors, ça dit, Dieu a fait les nombres entiers, tout le reste est l'œuvre de l'homme. Bon. Alors, c'est intéressant. Enfin, là, par contre, c'est vraiment quelque chose qui pose pas mal de questions. Alors, tout le reste est l'œuvre de l'homme. Bon, il y a une interprétation un peu terre-à-terre qui peut dire que, par exemple, dans les cours de maths niveau fac, au début des cours de maths niveau fac, on part des nombres entiers et on montre plus ou moins bien qu'on peut construire tous les nombres possibles à partir des nombres entiers. En fait, c'est pas du tout ce que voulait dire Kronecker, qui était un grand adversaire de la théorie des ensembles, et c'est très 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 idéologique comme propos. Et puis, le simple énoncé « Dieu a fait les nombres entiers », on remplace Dieu par la nature, si vous voulez pas entendre parler de Dieu. Bon, ça en soi aussi, pour moi, c'est très contestable. Bon, alors maintenant, je vais en venir au cœur du sujet, mais mes deux citations sont en relation avec le sujet que je vais aborder. Alors, j'ai commencé. Bon. Alors, ça, tout le monde voit. Un dromadaire. C'est un dromadaire, un animal du désert. Alors, je vais commencer par une histoire qui est annoncée dans le résumé, qui s'appelle le partage des chameaux. Alors, le partage des chameaux, c'est un... Alors, c'est attribué, c'est un truc qui court partout, maintenant qui a beaucoup de succès en Angleterre, par exemple, mais qui est attribué à Ali, le gendre du prophète Mohammed. Alors, il y avait un riche marchand qui avait 17 chameaux. Il avait 3 fils. Il fait un testament. Il dit, je lègue la moitié de mes chameaux au fils aîné, le tiers au second, et le neuvième au troisième. Bon. Les fils sont bien embêtés. Ils respectent leur père, mais ils sont bien embêtés. Ils vont voir le juge. Et ils tombent sur un juge, ça arrive, honnête et intelligent. Alors le juge dit, ne vous en faites pas, j'ai un chameau, je vous le prête. Toi l'aîné, tu as droit à la moitié. Tu prends 18 divisé par 2, 9 chameaux. Toi le second, le tiers, 6 fois 3, 18, 6 chameaux, et le troisième, le neuvième, 2 chameaux. Alors ça fait 9 et 6, 15 et 2, 17. Bon voilà, je reprends mon chameau. Et tout va bien. Bon, et c'est une histoire qui fait rire. Bon, alors, on a l'impression d'un tour de passe-passe. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est drôle, d'accord? C'est drôle, mais qu'est-ce que ça? Il y a quelque chose derrière. On a l'impression qu'on a été un petit peu joué. Bon. Alors, ce qu'il y a derrière. Alors, bon. Alors, évidemment, ce que je disais dans mon texte, ça je le sais de témoignages directs, indirect. On va parler d'un collègue marocain qui disait qu'il avait entendu cette histoire de son grand-père. de son grand-père, qui était vraiment bédouin, qui était sous la tente, qui racontait que les bédouins se racontaient cette histoire comme un truc un peu drôle, comme ça vous a amusé, mais qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Alors, les bédouins, ils ne sont pas scolarisés. Le juge, ce devait être quelqu'un d'instruit pour l'époque. Et comme il a tout de suite compris que un demi plus un tiers plus un neuvième, c'est un drôle de partage parce que ça ne fait pas un. Je vous aurais dit, deux fils, cinq chameaux, la moitié à l'aîné, le tiers au second, vous auriez tout dit, il faut que je me moque du monde. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Alors la clé, alors malheureusement, bon, désolé pour ceux qui ne voient pas, parce que j'ai prévu des transparents complètement différents de ce que je dirais. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'il va falloir ? Oui, bonjour, on se brûlera. Un demi plus un tiers plus un neuvième, c'est 9 dix-huitièmes plus 6 dix-huitièmes plus 2 dix-huitièmes. Bon. Pardon ? Ah oui, bien sûr, ça fera toujours ça mieux. Oui, d'accord. Ah merde, on va disparaître. Pourquoi ça disparaît ? Merde.
Allez, jeune.
Attends. Oh merde. Non.
Oui, je sais.
Ah non, c'est encore pire.
Je peux le faire, ça.
C'est encore pire.
Tu veux, je peux le...
Non, c'est encore pire.
Je peux le faire,
ça. Oui, vas-y. Allez-y. Oui, parce que là, c'est vraiment pas terrible. Oui, faire disparaître, c'est sur le côté qui le...
Alors, non, du coup, on vient.
Oui. Affichage.
Un écran, on enlève.
Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux.
Et soit on fait comme ça, parce que là, on n'a pas tout le texte, soit on fait...
Non, c'est bon. Derrière, c'est forcé.
Et en plus, c'est mieux comme ça. Consultation ophtalmo gratuite.
Voilà.
C'est une question d'ophtalmologie, c'est une question de logiciel. Savoir comment ça s'en sert.
Non, mais c'est pas mal.
Bon, c'est une première transgression qui n'est pas très méchante, qui est de se permettre de diviser des nombres, de se permettre d'utiliser des divisions qui ne marchent pas. Mais ce que font les mathématiciens, c'est vraiment ce que dit Goethe, ce que font les mathématiciens, c'est dire une fraction, ce sont deux nombres entiers, dénominateurs, numérateurs, et on y perd quelque chose avec le fait que le numérateur et le dénominateur ne sont pas définis. Ce que sont pas définis, ils sont définis à un multiple près. Bon, c'est pas si facile que ça, la preuve, ça a disparu de l'enseignement primaire, et maintenant on enseigne ça au collège seulement. Bon, c'est considéré comme trop dur maintenant pour l'école élémentaire. Bon. Tout ça, c'est une histoire qui courait donc au Moyen Âge, dans le Moyen Âge arabo-musulman. Bon, alors, il y a des méthodes de calcul qui ont été bien développées par les Indiens, dans les mathématiques indiennes au début de 4e, 5e, 6e siècle, étaient bien développées, bien comprises. Ils avaient aussi su faire avec quelques hésitations une autre transgression qui n'est pas très très méchante, que vous connaissez tous plus ou moins, à savoir les nombres négatifs. Les nombres négatifs, c'est une chose qui se comprend assez bien quand on fait de la comptabilité, quand il y a des dettes, des choses comme ça. Ça marchait assez bien. Et alors, l'apport arabe, essentiellement, ça a été toute la théorie de l'équation du second degré. Alors, je commence par des choses complètement élémentaires. X2 égale 4, c'est pas très malin. Solution, on a une équation, une inconnue qu'on appelle de tradition, qu'on appelle X, autrefois on l'appelait la chose. X fois X multiplié par X, ça fait 4, ça veut dire que X égale 2, c'est pas très très malin. Alors, on complique les choses, X2, X au carré égale 2. X au carré égale 2, c'est une chose qui avait traumatisé les pythagoriciens, qui savait qu'un triangle rectangle qui a pour côté 1 et 1 a pour hypoténuse, l'hypoténuse c'est le troisième côté, racine de 2, c'était aperçu que ça ne peut pas être égal à une fraction. C'est bien embêté. Bon. Alors, c'est encore un autre sujet qui est tout à fait passionnant. Alors, la flore arabe, ça a été écrire X égale racine de 2. C'est pas très malin, on met un symbole pour un truc qu'on connaît pas, mais surtout, surtout, de développer des méthodes de calcul. Alors, je remets un tableau noir, je remets ça au tableau. Alors, ce tableau arabe, Gisre. Gisre, alors ça veut dire racine, c'est une belle métaphore. Racine, c'est ce qui est caché. Et c'est. La racine, c'est ce qui est caché. Et c'est pour ça qu'on parlait autrefois d'extraire une racine pour calculer quelque chose comme racine de 2. Bon, c'est une terminologie qui est restée. Il y a une petite chose qui est contestée, qui est en débat, et c'est peut-être difficile à prouver, c'est que le mot gisre, ça ressemble un petit peu, si on le stylise beaucoup, au symbole de la racine. On dit que c'est d'origine, on dit que ça vient de là. Bon, c'est quelque chose qui est en débat. Bon. Je ne me sens pas capable de trancher ce débat. Bon, alors essentiellement, de ce point de vue, ça veut dire quoi? Je prends un truc un peu plus compliqué, mais pas trop compliqué. Ça veut dire quoi? Résoudre une équation. Une équation algèbre. Résoudre une équation, ça veut dire trouver X, mais de façon assez précise, le cahier des charges qui est rempli, c'est d'exprimer les solutions avec ce qu'on appelle les quatre opérations, addition, multiplication, division, soustraction, et puis avec en plus le signe racine. Bon, l'équation très simple, x2 égale 4 ou x2 égale 2, le signe racine suffit bien évidemment. Pour un truc un peu plus compliqué, ce que j'ai écrit, c'est x au carré égale x plus 1, et la solution, bon, peu importe, la solution, un petit clin d'œil, la solution, j'ai choisi une équation dont la solution, c'est le nombre d'or. Il faut bien s'amuser un petit peu. C'est aussi un truc sujet à des questions. Bon, donc, on arrive à le faire. Alors, c'est très bien. Alors, donc, on peut dire que c'est un accomplissement parce qu'on a l'impression de tout savoir. Quand on a une équation du second degré, une fois, machin fois x au carré égale machin fois x plus autre chose, on sait calculer les racines, et puis on sait aussi qu'il y a une situation où il n'y en a pas, et on sait aussi quand il n'y en a pas, et ça aussi, on sait expliquer pourquoi. Bon, donc on est très content, mais il faut se méfier des situations où on sait tout, quelquefois, il finit par y avoir des pépins. Bon. Et alors, on va arriver un petit peu plus tard. Alors, les mathématiciens dans le monde arabo-musulman, ils ont cherché un petit peu à résoudre des équations qui font intervenir des choses plus compliquées. Par exemple, x au cube, c'est une équation du troisième degré, x au cube plus... Voilà. Et alors là, il arrive quelques cas très particuliers, mais grosso modo, on n'y arrive pas. Alors, j'ai indiqué, ou pour peu, ça n'a pas beaucoup d'importance, enfin, si vous lisez pas bien, ça n'a pas vraiment d'importance. Bon, alors, les deux premiers saletés, c'est une chose... Il faut dire que l'Italie avait une certaine avance sur le reste de l'Europe, essentiellement parce qu'ils étaient en communication avec le monde arabo-musulman. Par exemple, les chiffres qu'on appelle les chiffres, qui viennent d'Indien, qu'on appelle les chiffres arabes, il y a eu une première tentative, on peut dire, après tout, on est dans Montpellier, en Occitanie, une première tentative d'introduction des chiffres arabes par Gerbert de Rouillac, le pape Sylvestre, mais ça n'a pas vraiment abouti. Et ça a été introduit par Fibonacci au XIIe siècle, pour Fibonacci, qui était une famille de commerçants, qui a été en contact étroit avec les commerçants maghrébins. Et alors, ce qui est intéressant, l'Église était contre les chiffres arabes, mais c'était tellement utile pour les besoins du commerce, ça dispensait de les débouiller, c'est beaucoup plus pratique. Finalement, ça a fini par l'emporter. Bon, c'est important parce que calculer avec des chiffres romains, c'est une mission complètement impossible. Et pour résoudre des problèmes de genre, il ne serait pas arrivé. Alors donc ça s'explique. Donc l'Italie est vraiment un pays, et surtout l'Italie du Nord, un pays très en avance scientifiquement au XVIe siècle. Alors les protagonistes, les protagonistes Del Ferro et Tartaglia, ce sont eux qui ont trouvé des formules pour l'équation du troisième degré. Cardano, maître du bandit, qui est à la fois médecin, mathématicien, physicien, mais qui a inventé, pour la petite histoire, c'est lui qui a inventé le joint de cardan qui équipe nos automobiles. Pardon ?
Transmission cardan.
Oui, exactement. C'est un nom propre. Cardan, c'est un nom propre, ça vient de lui. Ferrari, c'est celui qui a résolu l'équation du troisième, du quatrième degré, parce qu'on est passé du troisième au quatrième sans trop de difficultés. Mais oui, mais c'est un nom fréquent en Italie. Et Bombelli, c'est quelqu'un dont je parlerai un petit peu plus tard. Bon, alors, à titre de comparaison, c'est vraiment une époque passionnante. La publication du traité de Copernic, c'est 1543. Donc c'est vraiment une époque foisonnante. Bon, alors, ce que je voulais dire, c'est que Cardan, c'est une espèce de bandit. Alors, c'est pas lui qui a trouvé les solutions pour l'équation du troisième degré, mais il y a des formules qui s'appellent les formules de Cardan, formules qui sont assez compliquées, qui s'appellent les formules de Cardan. Alors, les formules de Cardan, simplement parce qu'il a plus ou moins, en faisant bien boire Tartaglia, il lui a arraché la solution et il les a publiées. Et comme souvent, bon, c'est lui, c'est, les choses sont attribuées à celui qui a publié, pas forcément à celui qui les a trouvées. Alors, cette histoire est racontée dans ce livre dont je suis amusé à mettre la projection, la Formula Segreta. C'est un livre récent, un livre assez vivant, sur la querelle scientifique, la querelle de priorité assez pénible qu'il y a eu entre Cardan et Tartaglia au sujet de ces formules. Bon, alors, mais c'est pas le sujet principal, de mon exposé, cette querelle de priorité, même si c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ils ont résolu l'équation du troisième degré, mais il se passe des choses un petit peu curieuses. Alors c'est un petit peu dommage, peut-être que je vais écrire au tableau, puisque les gens qui sont au fond ne peuvent pas bien voir. Alors, ça veut dire quoi? Résoudre une équation, comme j'ai dit, le cahier des charges, cette fois-ci, puisqu'on est en degré 3, il faut admettre aussi la racine cubique. Alors, dans le cahier des charges, on se dit, on sait résoudre une équation du troisième degré. Alors, x3 égale 27, c'est facile, la solution 3 fois 3, 9 fois 3, 27, c'est x égale 9. Quand on ajoute des x2 et des x, ça devient plus compliqué, on n'y voit rien. Il faut trouver, et il faut une méthode pour trouver. Et c'est ce qu'a trouvé Tartaglia. Alors, j'ai pris un exemple avec des nombres pas trop compliqués, mais c'est forcément quelque chose de compliqué. Vous ne voyez pas bien. Ça n'a pas beaucoup d'importance, finalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la formule est compliquée, qu'il y a des racines cubiques et des racines carrées. Alors, je peux la lire. Je prends l'équation x cube plus 3x égale 10. Je l'écris comme ça. Quand aujourd'hui, on écrirait x cube plus 3x moins 10 égale 0, je l'écris comme ça pour respecter l'esprit des gens du temps qui avaient encore un peu peur des nombres négatifs. Alors, x cube égale 3x plus x cube plus 3x égale 10. La solution, c'est racine cubique de racine de 26 plus 5 moins racine cubique de racine de 26 moins 5. Bon, pour trouver ça, c'est pas bon. On peut le dire. Même à vérifier, c'est pas évident. Et à trouver, ça allait encore moins. Bon. Alors donc, on était contents. À l'époque, il y avait des défis publics. Alors il y avait des réunions où quelqu'un posait une équation, disant est-ce que vous savez résoudre ça? Et les gens n'y arrivaient pas, on se moquait d'eux, ils discutaient. Bon, c'était. Voilà. Bon. Alors, donc cette équation, tout se passe très bien, parce que là, c'est pas facile à vérifier, mais on peut le vérifier. Mais malheureusement, il y a des choses qui se. Alors, conclusion provisoire que j'ai écrite, justement, c'est ce que j'ai dit, pas la peine de répéter, racine carrée, racine cubique. Mais il y a des cas où ça ne marche pas. Il y a des cas où ça ne marche pas. Bon, alors, je peux écrire au tableau. Si j'écris x cube égale C'est pas plus visible. Non, c'est pas la place de son, les plus, c'est pas un cours de ça. C'est pas un cours de ça. X cube égale 15x plus 4. Il y a une solution évidente entre guillemets. D'ailleurs, c'était pour ça que sans doute que les détracteurs avaient posé que les détracteurs de Tartaglia avaient posé cette question. Il y a une solution qui est évidente quand même. On peut toujours, pour tester les problèmes de gens, on peut toujours fabriquer des équations, donc on connaît à l'avance les solutions. 4 fois 4, 16, soit 4, 64. C'est encore du calcul mental. 4 fois 15, 60. 60 plus 4, 64. Donc, l'équation du troisième degré, x cube, égale 15x plus 4, admet 4 comme solution. Bon, d'accord. Mais alors, si on applique les formules dites de Cardan, il se passe des choses très bizarres. Si on applique les formules à la lettre, il apparaît que sa solution, elle vaut racine cubique de 2 plus racine carrée de moins 121 plus racine cubique de 2 moins racine carrée de moins 121. Bon, c'est un truc complètement bon. Et ça doit faire 4. Ça doit faire 4, c'est encore moins évident que tout à l'heure. Bon. Et alors, il y avait, au cours de ces controverses publiques, il y avait des gens, des détracteurs de Tartaglia, qui disaient, regarde cette équation, des formules, pourtant la solution, nous, on la connaît, et les formules, elles ne marchent pas. Bon. Elles ne marchent pas parce que vous connaissez quand même un petit peu la règle des signes. Le premier nombre négatif, c'est un nombre positif. Bon. Alors, c'est là qu'apparaît un troisième larron. Bombelli, j'ai pas trouvé de portrait de Bombelli. Bon, je trouve ça, c'est le facsimilé d'un traité d'algèbre qu'il a écrit. Bombelli, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, alors 121, mon exemple n'est pas indifférent. Peut-être que vous avez un petit peu, même, vous avez des générations qui s'est un petit peu calculé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. 121, c'est 11 fois 11. Donc,
une racine carrée d'un nombre négatif?
Ben justement, c'est le problème. Alors 121, c'est 11 fois 11. Donc, moins 121. Bon, alors, c'est justement ça. C'est justement ça qu'a osé faire Bombelli, une belle transgression. Vous n'avez pas progressé, vous n'avez pas protesté quand on a parlé de frappe, on a divisé des chameaux, vous n'avez pas protesté quand on fait de la mesure de nombre négatif, et vous protestez quand on dit à propos des racines carrées de nombre négatif, et vous avez raison, c'est une belle transgression. Bon, alors, Tartaglia, il s'est dit, essayons, on va introduire un symbole, ça s'appelle. J'écris racine de moins 1, on va introduire un autre symbole qui est moins racine de moins 1, parce que moins racine de moins 1 au carré, ça va faire aussi moins 1, et puis on va essayer de calculer. Et alors, on arrive à la partie un petit peu technique de mon exposé. Il fait comme si. Alors, donc. Dans ma formule, il y a racine de moins 121. Alors, racine de moins 1, c'est 1, il va dire que c'est 11 fois racine de moins. Moins 121, c'est moins 1 fois 121. 11 fois moins 121, donc il va dire que racine de moins 121, c'est 11 fois racine de moins 1. Et alors, si vous vous rappelez la formule que j'ai indiquée, et alors, ce qui se passe, et ce qu'il remarque, avec cette entité un peu bizarre, c'est que 2, parce que vous voyez cette formule que j'ai, qui était de transparent avant, elle était compliquée, des racines cubiques, que racine cubique de ce nombre qui n'existe pas, 2 plus 11 fois racine de moins 1, c'est simplement quelque chose de beaucoup plus simple qui est 2 plus racine de moins 1. Et comme là, dans la formule, on avait 2 racines cubiques, on avait la racine cubique de 2 plus. Racine cubique de 2 plus racine de moins 121 plus 2 moins racine de 121, on va trouver au final 2 plus racine de moins 1 plus 2 moins racine de moins 1. Le racine de moins 1 dont on ne voulait pas disparaît, et on retrouve 4. Bon, et ça marche très bien. Bon, alors. Je me suis. Bon, j'ai détaillé le calcul sur le tableau, mais enfin, c'est pas essentiel. L'essentiel, c'est que. Alors, ça marche. Ça marche, mais enfin, bon, c'est pas sans poser quelques problèmes. C'est pas sans quelques problèmes. Un des problèmes que ça pose, qui est un peu bizarre, c'est que cette équation que j'ai écrite, x cube égale 15x plus 4, il y a d'autres solutions. Il y a une solution qui doit être moins 2 moins racine de 3, une solution qui est moins 2 plus racine de 3. Bon, que les gens savent faire. Pour des raisons techniques, c'est pas difficile. Si on connaît une solution d'une équation de degré 3, on est ramené à une équation du second degré, donc les gens savent faire. Alors, autre problème posé, alors c'est posé par ce calcul miraculeux, comment est-ce qu'on trouve les autres solutions ? Bon, alors ça c'est un petit peu technique, j'en parlerai peut-être un petit peu dans le cours du débat. Bon, alors toujours est-il que ce calcul qui marchait si bien, bon, il a mis, ça a été le début d'une longue série, d'une longue controverse qui a duré jusqu'au début du 19e siècle. Alors, il faut dire que des gens très bien, des mathématiciens éminents, comme Descartes et Newton, étaient contre. Alors, Descartes a inventé le terme... Alors, on parlait de nombres impossibles, et ensuite on a parlé de nombres imaginaires. Et c'est pour ça que le racine de moins 1, encore aujourd'hui, on le note i. I comme imaginaire. Alors, comment peut-on faire ? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut voir, mais que les gens ne voyaient pas très clairement au départ. Quand on viole quelque chose qui apparaît une règle intangible, ça peut marcher. Il y a des cas où ça marche, parce que là, ça marche très bien, mais il y a un prix à payer. Par exemple, pour ne pas se limiter aux entiers et faire des fractions et écrire des fractions, c'est que entre deux nombres fractionnaires, il y a une infinité de nombres fractionnaires. Entre deux entiers, il n'y a qu'un nombre fini d'entier. C'est une certaine complication qui apparaît. Le prix à payer pour ces racines de nombres négatifs. Eh bien, c'est assez cohérent, mais c'est une chose que les gens n'avaient pas dans leur tête vraiment. Alors, pourquoi ? Bon, il y a des nombres positifs et des nombres négatifs. Mais, quand vous introduisez ces choses interdites, les nombres négatifs disparaissent. Il n'y a plus de notion d'ordre. Vous savez, pourquoi il y a des nombres positifs, des nombres négatifs ? Donc, on peut dire qu'un nombre est avant un autre. 2, c'est plus petit que 3, moins 1, c'est plus petit que 2, etc. Mais, si on se permet de... La raison pour laquelle racine de moins 1 n'existe pas, entre guillemets, c'est qu'un carré est un nombre positif. Donc, ce qu'on perd, c'est la notion de nombre positif ou négatif. Et d'ailleurs, la controverse a été résolue de la façon suivante. Alors, c'est très bien... Je ne sais pas si dans la salle qui était prévue au départ, il y avait un tableau.
Oui,
il y avait un tableau, mais là, il y a un tableau. Là, il y a un tableau.
Alors,
je suis très content qu'il y ait un tableau. Je vais écrire quelque chose de pas très... De facile à lire. Quelque chose de facile à lire et de pas compliqué. Ce que je vais écrire... Je dessine mal, excusez-moi. C'est un axe. Il est de coutume, maintenant tout le monde fait ça, les graduations tout le monde connaît, il y a des règles graduées, il y a des thermomètres, il y a tout ce qu'on veut. L'idée de représenter des nombres par une droite graduée, c'est quelque chose que les Grecs ne connaissaient pas. Ça ne les intéressait pas, ils n'avaient pas l'idée. C'est quelque chose aussi qui vient du monde arabo-musulman. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant naturellement, quand on représente des nombres, on met le 0 ici, les nombres positifs d'un côté, les nombres négatifs de l'autre. Voilà. Et la grande idée, alors c'est, la grande idée, ce qui est intéressant, ce que fait remarquer un grand mathématicien du XXe siècle, c'est une idée qui a été publiée et développée par des gens qui n'étaient pas des grands mathématiciens par ailleurs, mais qui, bon, peut-être que les autres disaient c'est évident et ne le disaient pas. La grande idée, c'est dire que les nombres dits impossibles, à savoir nombre plus x plus y fois racine de moins 1, x plus y, de les représenter par les points d'un plan. Et à ce moment-là, les gens ont été rassurés. Le nombre, puis le racine de moins 1, il va se trouver ici. Alors, et on peut dire que multiplier un nombre, que ce soit un nombre... Alors, c'est le moment de dire que ces nombres qui faisaient intervenir le racine de moins 1, on les appelait nombres imaginaires. D'abord, nombre impossible, ensuite nombre imaginaire. Alors, quand ça s'est mis à rentrer dans la tête des gens, quand les gens ont été rassurés, on les appelait nombres complexes. Complexe, ça veut pas dire compliqué, complexe, ça veut dire composé de deux autres nombres. Et alors, par anti... alors, il y a un mot que j'ai oublié. Les nombres habituels, que vous connaissez tous, dans le jargon des mathématiciens, ils s'appellent les nombres réels. Ce qui est une farce. C'est une farce. Parce que, quand vous faites des calculs, chez votre banquier, vous appréciez les nombres à nombre décimaux, à deux décimales. Quand on fait de la physique, quelquefois, on s'autorise des calculs plus précis avec plus de décimales. Mais ce qu'on utilise, c'est toujours des nombres décimaux, c'est-à-dire des nombres qui s'écrivent 2, qui s'écrivent avec un nombre 2, un nombre fini décimal. Ce qu'on appelle les nombres réels, c'est des nombres comme pi, par exemple, qui sont comme racine de 2, qui ne sont pas forcément égaux à des fractions, et qui s'écrivent, si on veut les représenter avec des nombres décimaux, par une infinité de décimales. Autrement dit, si on se réfère au sens commun, les nombres réels des mathématiciens, ils sont tout sauf réels. Mais ils s'appellent ainsi par opposition aux autres. Voilà. Alors, donc la controverse a largement cessé quand on a introduit ces représentations des nombres dits complexes par des points du plan. Et quand on peut aussi donner directement des règles de calcul, dire ce que c'est que la multiplication d'un couple AB par un couple A'B', sans écrire le racine de moins 1, on le faisant apparaître après. Enfin, il y a un certain nombre de techniques qu'on emploie actuellement pour enseigner les nombres complexes, pour se passer de ce racine. Pour ne pas dire foin de tout ce que vous avez appris, on va écrire un racine de moins 1 interdit. Donc, il y a moyen de se passer de cette interdiction. Alors, il y a un certain nombre de choses amusantes au passage. C'est que donc, c'était le début d'une controverse. Comme ça marchait, il y avait un certain nombre de gens qui aimaient bien ça, qui s'en servaient. Alors, par exemple, D'Alembert, qui était un des encyclopédistes, qui était aussi un grand mathématicien, il avait dit à un de ses étudiants, qui était un petit peu réticent à l'utilisation des nombres complexes, il a dit « Allez-y, la foi viendra ensuite. » C'est un très pascalien comme argument. Très pascalien comme argument, mais ça marche. Et il y a aussi un troisième, finalement... Il y a un grand transgresseur qui est un Léonard Euler, qui était le fils d'un pasteur suisse, qui a beaucoup vécu à Berlin et à Saint-Pétersbourg, qui était un des plus grands mathématiciens de tous les temps, c'était aussi un grand transgresseur et un grand ami des nombres complexes. Mais alors, il fallait beaucoup plus loin dans la transgression. Alors, voilà deux formules que Euler écrivait en partie par provocation, parce qu'il savait très bien que c'est difficile de leur donner un sens, c'est bien pire que la, bien pire, si j'ose dire, que la racine de moins 1. La première formule, je le dis pour ceux qui sont au fond, c'est 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64, devinez la loi de formation, pour en plus 2, ça fait moins 1. En fait, c'est du niveau terminal. Pour expliquer la tricherie, niveau terminal. Et autre chose, deuxième formule, qui elle est beaucoup plus trapue, qui est du niveau, on peut dire niveau de plus 5. C'est que 1 au carré, c'est 1 plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, etc. Ça fait 0. Donc ça, c'est bon.
C'est une démonstration.
C'est une démonstration. C'est une démonstration. Enfin, je pourrais vous expliquer ça quand on viendra aux questions. Bon. Ouais. Bon. La grande découverte de l'air, c'est ce qui est là. Alors, je vais essayer de lire au tableau en gros.
C'était pour vous, je savais mieux.
Bon, d'accord, d'accord.
Et en appuyant dessus.
Alors, quand vous
ne marche pas, je vais en chercher.
Non, mais ça, c'est pour le plaisir. Bon. Alors, cette formule est à la puissance Ipi vaut moins 1. Cette formule, elle est écrite en frontispice. Je ne sais pas s'il est toujours, parce que les choses ont changé, mais dans mon enfance, elle est écrite en frontispice dans la salle du Palais de la Découverte consacrée aux mathématiques. Et il y a eu un petit sondage l'an dernier dans la communauté mathématique qui demandait aux gens quelle est la plus belle formule mathématique. Et celle-là a été plébiscitée. Alors, quelques explications quand même. C'est un nombre qui est appelé en hommage à Euler, qui s'appelle le nombre d'Euler, qui a une valeur numérique, qui se calcule, qui est 2,7, 2,71, enfin, je ne connais pas les décimales par cœur. I, c'est le racine de moins 1, le fameux racine de moins 1. Pi, c'est pi, tout le monde connaît pi. Et pourquoi ça vaut moins 1 ? Pourquoi ça vaut moins 1 ? Bon, ça serait un peu plus technique. Bon, mais ce qui est important, c'est que c'est un calcul qui a un sens précis. Et cette formule, elle a joué un rôle fondamental pour la résolution d'un problème dont tout le monde a entendu parler, même si on ne sait pas trop ce que ça veut dire pour la plupart des gens. C'est la quadrature du cercle. Qu'est-ce qu'on appelle la quadrature du cercle ? La quadrature du cercle, c'est une chose qui a un sens précis. On trace un cercle avec un compas sur une feuille de papier et on voudrait trouver un carré qui a la même R que ce cercle avec comme contrainte se servir de la règle et du compas et pas d'autre chose. Bon, c'est quelque chose qui a été cherché pendant des années et on a démontré à la fin du 19e siècle, que c'était impossible pour des raisons qui tiennent à la théorie des équations dont j'ai un petit peu parlé, à savoir que le nombre pi ne peut pas s'obtenir comme solution d'une équation algébrique avec des coefficients entiers. Ce qui est une chose difficile parce que c'est un truc de bon sens. Bon, montrer que quelque chose existe. En mathématiques ou ailleurs, on le montre. En mathématiques, on le calcule, on donne un exemple. Montrer que quelque chose n'existe pas, c'est beaucoup plus difficile. Bon, difficile. Eh bien, je crois que j'ai à peu près tenu mon temps. J'espère que c'était un petit peu. J'espère que je ne vous ai pas trop fait souffrir. Bon.
Question pour
Freud,
on pourrait le récupérer là.
Tout à fait, oui.
Oui,
en fait, pour le récupérer, en fait, il n'est pas complet. Il n'est pas complet comme il y a des choses que j'ai dites que je n'ai pas écrites, mais enfin, je pourrais le remanier un petit peu, c'est pas un problème.